patrimonial comme un laboratoire de politique et de pratique qui, bon, qui revient en France. La question d'une géographie démilitarisée, puisque la géographie au départ sert à faire la guerre. La question du travail de pacification qui se met en place. La frontière est un récit, la rivalité mimétique. La question de l'exil, de la rupture, du territoire de corps mort, de l'abîme et de l'abysse, de refuge, la mangrove, des espaces fantômes, la question du silence et du secret.
Donc, ce qu'on voulait mettre ensemble, c'est quand même, on est tous un peu, dans nos pratiques diverses, préoccupés par une question quand même d'émancipation, de libération, mais tout en sachant qu'on vit dans des contraintes. Donc, on pourrait construire ici une petite mini-république, hein, si vous voulez, je ne sais pas comment faire fait ça, mais on n'est pas en train de... ce qu'on essayait, c'était pas... Alors, on peut penser qu'on construit une carte totalement utopique, par exemple, on fait un espace utopique, l'utopie de ce qu'on voudrait. Ça sera peut-être la fois prochaine, parce que pour l'instant. Mais ce qu'on voulait, c'était, est-ce qu'il y avait des choses autour desquelles on s'accordait, qui traçaient un espace, et qu'on pouvait justement le transmettre ce soir, quand tout le monde, quand les personnes vont arriver, et qu'on va pouvoir dire quelque chose de ce qu'on a compris, de ce qu'on a mis en forme, qu'on a essayé de mettre en forme, même si la forme n'est pas aboutie.
Je pense que le projet individuel est ce qui n'a pas été cartographié, et donc fait écho à ces histoires non arrêt, dont on devrait être capable, nous, dans une réflexion comme celle-ci, de un, ne pas tomber dans la mimétisme de recréer une cartographie, mais plutôt d'essayer de se dire qu'est-ce qui a été fait en deçà, avant l'invention de la rationalisation du monde sur papier. Je peux vous parler, par exemple, là, j'ai pas 10 000 exemples. Il y a un exemple que je peux vous citer que je trouve assez fascinant. Ce sont les cartes marines, les cartes maritimes de Polynésie. Les cartes maritimes de Polynésie qui sont d'abord des objets superbes, mais qui, quand vous les regardez attentivement, vous vous demandez mais comment les marins qui allaient à la pêche utilisaient ces objets. En fait, ils ne les utilisaient pas, ils les mémorisaient, ces cartes. Vous avez des objets en bois, en bambou en général, dans des formes très étonnantes, en fait, elles étaient mémorisées. Donc, ce que la cartographie de la raison et de la modernité et de mise à l'échelle du monde a comme possibilité, je dirais, soit de transgression ou en tout cas de ce qui est existant de ça, c'est peut-être, à mon sens, essayer de réinventer une manière de désaliéner de cet empoisonnement, de cette toxicité qu'est la cartographie, justement.
Il y a aussi d'autres manières de se déplacer dans l'espace qui ne sont pas... Où il y a par exemple les cartes, alors là, transmises oralement, dont tu parles, qui sont les cartes, par exemple, des itinéraires de migrants ou de réfugiés. Ne passe pas par là, passe par là. Si tu passes là, tu trouveras quelqu'un. Enfin, donc, ils tracent en fait aussi une cartographie de l'espace que l'on regarde, qui sont donc, ce serait peut-être ça aussi, quelles sont les formes que prennent cette représentation de l'espace quand même représente l'espace, parce qu'il faut bien se voir, mais en partant d'autres dessins, d'autres traces que la frontière.
Je me crois qu'ils ont finalement complètement intégré cette cartographie coloniale, qui en gros, voilà, ils sont rayés de la carte, hein, au sens propre, sauf que, peut-être par rapport aux étudiants qui étaient là hier, eux réinventent quelque chose qui est de l'ordre simplement de l'émotionnel, et pour le coup de l'épidermique. Alors, voilà, l'inutilité, l'absence d'apport, la non-créativité, la non-participation à cette société. Je suis en dehors, je n'ai rien fait, ni contre elle, ni pour elle, ni avec elle, ni en dehors d'elle, je n'existe pas. Et je pense que la question pédagogique, elle est à ce niveau-là très très importante, c'est-à-dire que c'est important de tenir compte de ces absences, de ces remplacements, et souvent de ces remplacements qui sont juste de l'émotionnel, et de pouvoir effectivement proposer une autre cartographie, effectivement, qui ne serait pas centrée ni sur la France, ni sur l'Europe, etc., qui soit beaucoup plus ouverte que ça, qui soit beaucoup plus transversale, et bien entendu, qui réintègre toute l'histoire coloniale. Ça, je pense que chacun a son prix, celui-ci, l'entrée et tout, et c'est ça la richesse du groupe aussi. Bah, de mon point de vue, s'il y a une urgence, c'est vraiment celle-là. Parce qu'il y a une forme d'expropriation quelque part, et il faut absolument proposer des choses pour que les gens, après, à eux, d'être, je le dire, s'ils veulent être pour, contre, en opposition, etc. Ça, c'est la liberté de chacun. Et déjà, de réintégrer un espace, et pour ça, de redéfinir cet espace, moi, de redessiner d'autres cartographies, c'est l'aspect qui m'intéresse en particulier.
Parce qu'on parle de cartographie sensorielle, bah, il s'agit d'une cartographie sensorielle. On parle de pierre de liaison, justement, quand on disait d'une carte à l'autre, comment redéfinir le principe de la carte. Le principe de pierre de liaison, c'est d'une île à une autre, comment on se redéfinit dans un corps, en fait. Voilà. Et ça, je trouvais plutôt intéressant parce que finalement, on ne parle pas de la part psychologique, du traumatisme aussi du post-colonial. Et Dieu sait pourtant s'il existe, il est présent. Et justement, je partais un truc comme ça, où on parle c'est l'œuvre coloniale. L'œuvre coloniale, c'est quand on dit d'un blanc ou d'un français qui vit dans un espace colonial, qui est la l'œuvre coloniale, c'est quelqu'un qui vit dans ce lieu-là depuis longtemps et qui a un ventre énorme tellement il boit de bière et d'alcool. Et en même temps, cet alcool qu'il boit, c'est l'alcool aussi qu'il a donné à boire, etc. Et je me dis comment finalement réaliser une cartographie des fantômes ici. Parce que les fantômes, ils sont là, ils sont présents. Et ce serait quand même intéressant de les débouler, quoi, de les repérer, de les débouler. Moi, j'avais envie notamment cette image de cette femme qui tient cet enfant, etc. C'est l'image du subalterne, de la ménagère. C'est quelque chose qui est très prégnant, c'est quelque chose qui a accompagné aussi toute mon histoire de femme, de servir, de dire merci, etc. Et c'est quelque chose psychologiquement, en fait, qui a été une forme de traumatisme dans toute une génération de femmes, la femme ménagère, en quelque sorte. Donc ça, c'est l'un des fantômes, on va dire, l'un des fantômes que j'aimerais bien débouler, en quelque sorte, parce que quelque chose qui revient aussi, comme se dit à ressort. Et même si on a eu des échanges très intellectuels avec beaucoup de références, de tout un tas de savoir, je me dis qu'à un moment donné, c'est important de se regarder un petit peu dans le miroir et de se dire, bon, finalement, je me confronte à ce fantôme, à cet épouvantail, parce que pour moi, ça, c'est un épouvantail. Et ça donne des choses du geste, du tactile, de la dimension, justement, comme parlait Marc, toute cette dimension très humaine, en fait, qu'on retrouve là, et qui, de manière assez étonnante, je veux dire, part de discours quand même très construits, très théoriques, et puis on arrive à quelque chose de espèce de poussière très sensible. Et moi, je réponds plutôt au point sur la partie sensorielle de la culture.
Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça.
En douter à leur présence serait faire preuve d'ignorance de la vie des populations du Congo et des magnifiques réalisations obtenues depuis 50 ans. Ce serait surtout faire preuve de peu d'affection pour des hommes et des tribus que nous avons entrepris de conduire vers l'école d'or du progrès qui brille dans le ciel d'azur des nations civilisées. C'est poétique.
Qu'en pensez-vous très bien ? Qu'est-ce qu'il peut faire?